Radio Galère pour Amnesty International. Donc, pour cette première demi-heure, je suis très heureuse d'avoir une invitée, Pascaline Curté, déléguée régionale à la CIMAD, qui va nous parler d'un livre qui s'appelle « L'asile en exil ». Voilà, donc je te laisse en parler.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi je suis Pascaline, je travaille à la CIMAD. Je vais peut-être dire deux mots présenter la CIMAD. Voilà, pour que déjà on puisse me situer et puis situer cette association. Donc c'est une association nationale, loi 1901, qui défend le droit des personnes exilées, des personnes sans papier, des personnes étrangères, quelle que soit leur origine, leur sexe, leur condition, leur religion. Voilà, donc c'est une association qui est présente partout en France et même dans les DOM-TOM et qui est présente en région PACA, voilà, donc sur notre ville de Marseille, mais également à Toulon, à Nice, à Briançon, à Gap ou à Aix-en-Provence. Donc c'est une association que rejoignent des militants et des militantes qui veulent défendre l'égalité des droits et qui veulent défendre la place des étrangers et des étrangères dans notre société, parce que c'est en quelque sorte un marqueur, un indice de d'ouverture ou de fermeture, de repli sur soi ou au contraire de vivre ensemble. Donc comment on défend les droits? De plusieurs manières différentes, hein. On défend les droits des personnes qui sont par exemple incarcérées, enfermées, donc en prison, et étrangères. Autant vous dire que quand vous êtes en prison, vous êtes déjà relégué, mais si en plus vous êtes étranger et que vous avez des problèmes administratifs et que voire sans papier, la situation est encore plus compliquée pour vous êtes encore plus absent et encore plus laissé pour compte. Et donc il y a des bénévoles de la CIMAD qui interviennent en prison.
Oui, justement, j'avais interviewé à Marseille Brigitte Pia et Jacques Blanc pour plein de sujets, et notamment la prison. Je n'ai pas encore passé leur témoignage, donc je dis aux auditeurs que dans une des prochaines émissions, on pourra aussi parler de ça avec l'interview que j'avais pu leur faire à cette occasion. Je te laisse continuer.
Donc il y a une équipe qui intervient au Beaumet, mais qui intervient aussi à Luynes, à la Farlède, dans des centres de détention, à Salon, divers et variés. On accompagne aussi les personnes étrangères, et surtout, c'est pour ça qu'on est le plus connu, que les auditeurs nous connaissent peut-être, c'est qu'on anime des lieux d'accueil qu'on appelle des permanences, où les personnes sans rendez-vous et de manière inconditionnelle peuvent venir pour poser des questions quant à leur situation, sur des procédures, sur des démarches, pouvoir parler un petit peu de ces questions de papier, d'administratif, qui sont des questions complexes, qui sont des questions souvent où on ne sait pas à qui s'adresser, et donc la CIMAD ne fait pas ne remplace pas un avocat, absolument pas. Nous, on n'est pas des avocats, mais on connaît le droit et surtout sa pratique. Et puis, on va défendre, on va accompagner. C'est une histoire aussi, des fois, de compagnonnage sur des dossiers avec des personnes étrangères pour pouvoir aller un peu les défendre. Parce que même si elles ont droit à certaines choses, parfois, l'État peut le leur refuser. Alors que c'est absurde. Et donc là, c'est tout le travail des militants d'aller porter une parole et d'aller combattre aux côtés des personnes étrangères pour qu'elles puissent être défendues. Voilà. Donc je tire un peu à gros traits les activités, mais on est aussi, y a aussi quelque chose qui est intéressant de mettre en lumière. C'est une équipe qui observe dans la salle d'audience. La salle d'audience du centre de rétention du Canet à Marseille. Un centre de rétention, c'est un genre de prison, mais pour lequel vous n'avez fait aucune faute. On va juste vous retenir, vous priver de votre liberté, parce que administrativement, vous n'êtes pas, pas au cordeau. Vous pouvez avoir des papiers, ou vous pourriez peut-être en avoir bientôt, mais là, actuellement, vous n'en avez pas, et on va vous retenir contre votre gré, et donc c'est un genre de prison, quoi. Mm-hmm. Dans ce centre de
rétention... Justement, aussi avec la nouvelle loi Asile et Migration, ça s'est aggravé, en fait.
Ça s'est aggravé, ouais. Les gens, avant, pouvaient être enfermés 45 jours, donc 45 jours, c'est déjà un mois et demi. Mm-hmm. Et donc, depuis la énième loi qui voulait rendre plus efficace les questions d'asile et d'immigration, cette énième loi, en fait, elle rallonge, elle multiplie par deux, donc des gens vont pouvoir être privés de leur liberté et enfermés dans un centre.
Ce qui en aucun cas ne va les aider à obtenir le droit d'asile. C'est pas au contraire même, c'est pas ça qui va...
C'est sûr que priver les gens de leur liberté, ça les aide en aucun cas dignité, quoi. C'est le titre de l'émission. En tous les cas, enfermer les gens parce qu'ils ont juste pas les bons papiers au bon moment, mais ils pourraient peut-être les avoir. enfin plus tard, ou même peut-être qu'ils en ont eu avant. En tous les cas, les priver de liberté à ce titre-là, c'est non seulement c'est indigne, et la France est souvent condamnée à ce titre sur les conditions indignes, dégradantes.
Oui, oui, Amnesty donc a dénoncé cette loi, elle la dénonce toujours et demande d'autres conditions, notamment les enfants aussi, je crois, qui peuvent être détenus, et ça c'est contraire au droit international.
Au droit des enfants, quoi. Ouais. La loi aurait pu interdire que des enfants ne soient pas en centre de rétention. Et des nourrissons, des enfants de 3 ans, de 6 ans, enfin, c'est le délire. Et la loi n'a rien dit. Les députés ont préféré se taire. Donc ça, c'est sûr, avec Amnesty, effectivement...
On collabore souvent, la CIMAD et Amnesty.
Notamment sur un combat que vous connaissez certainement bien, c'est celui sur la frontière franco-italienne.
Oui, ça aussi, c'est un sujet sur lequel je reviens assez souvent, mais voilà.
On fait partie un peu Amnesty, CIMAD, on est vraiment ensemble dans une espèce de coordination pour que le droit des exilés soit respecté dans cette zone frontière où, en fait, tout est permis et il y a énormément d'abus, de violations de droits. Et puis, bien sûr, sans parler du délit de solidarité.
Voilà. Savez, les solidaires, comme Martine Landry. Là, il y a une nouvelle... Oui, Martine Landry, Amnesty. Mais là, il y a aussi, j'ai encore une actualité sur un jeune de...
Loïc, qui a été condamné à la cour d'appel d'Aix-en-Provence lundi.
Enfin, je ne dis pas très bien, c'est juste je voulais en parler. Voilà, tu es au courant, forcément.
Exactement. Loïc étant effectivement...
Un solidaire.
Un solidaire, effectivement, tout à fait.
Qui a été condamné, c'est ça
Il a été relaxé.
Il a été relaxé.
En première instance.
Et là...
Le parquet a fait appel.
Voilà.
Il était en cour d'appel à Aix... semaine dernière, le jugement est tombé lundi, et en fait la cour d'appel condamnée à 3000 euros d'amende. Alors que en fait cette personne, bien sûr que c'est un acte militant et duquel il ne s'est pas caché, mais son seul la seule raison pour laquelle on le condamne, c'est parce qu'il avait avec lui dans sa voiture deux érythréennes qui voulaient passer la frontière, sachant que il s'est fait interpeller une semaine après qu'une personne, je ne sais plus de quelle nationalité, voulant passer la frontière, est montée sur le toit d'un train et en est mort.
C'est-à-dire
qu'en fait, c'est pour se prémunir et protéger les personnes exilées, leur éviter de mourir.
La mort, tout simplement.
Voilà, leur éviter la mort que Loïc les a pris dans leur voiture. Et ça, aujourd'hui, c'est condamné par l'État. Ça dit bien à quel niveau de gravité la situation en est. Dès qu'on parle d'exilés, dès qu'on parle d'étrangers en France. Voilà un petit peu, j'ai brossé à grands traits, bien sûr, la CIMAD, avec d'ailleurs Amnesty et d'autres associations, mène du plaidoyer politique. On en a parlé sur la dernière loi qui date du 10 septembre 2018, et fait aussi des actions de sensibilisation. Et un peu sur la même ligne que Amnesty, c'est-à-dire sensibiliser le grand public ou des élèves ou des étudiants ou un public particulier pour débattre un petit peu des questions qui touchent aux personnes étrangères et surtout lutter contre les préjugés, les idées reçues.
Bien sûr, qui sont véhiculées souvent même par les médias aussi, on dit...
Des raccourcis, des idées toutes faites, sur ce à quoi ont droit les personnes étrangères, le fait... souvent, il y a une logique un peu de bouc émissaire derrière, c'est-à-dire que la personne étrangère, c'est celle qui est tenue pour responsable, d'échecs qui sont plutôt ceux de notre État, de nos politiques publiques,
Non, puis on veut nous faire croire qu'on n'a pas les conditions d'accueillir, ce qui est complètement faux.
Exactement. Et si on parle de conditions d'accueil, c'est sûr que la transition est toute faite pour parler de l'Observatoire Asile à Marseille. Mais peut-être qu'avant, tu veux nous lire un...
Ah, oui, d'accord.
Est-ce que c'est le moment où
Je pense que oui. Alors, c'est effectivement une petite poésie que j'ai trouvée au début du livre, là, et donc a été écrite par Warsan Shire, donc qui doit être une femme migrante. Alors, je vous la lis aussi bien que je peux. Alors, personne ne quitte sa maison, à moins d'habiter dans la gueule d'un requin. Tu ne t'enfuis vers la frontière que lorsque toute la ville s'enfuit comme toi. Tes voisins courent plus vite que toi, le goût du sang dans la gorge, celui qui t'a embrassé à perdre haleine derrière la vieille ferronnerie, traîne un fusil plus grand que lui. Tu ne quittes ta maison que quand ta maison ne te permet plus de rester. Personne ne quitte sa maison, à moins que sa maison ne le chasse, le feu sous les pieds, le sang qui bouillonne dans le ventre. Tu n'y avais jamais pensé, jusqu'à sentir les menaces brûlantes de la lame contre ton cou. Et même alors, tu conservais l'hymne national à portée de souffle. Ce n'est que quand tu as déchiré ton passeport dans les toilettes d'un aéroport en t'étranglant à chaque bouchée de papier que tu as su que tu ne reviendrais plus. Il faut que tu comprennes que personne ne pousse ses enfants dans un bateau à moins que la mer ne semble plus sûre que la terre. Personne ne brûle ses paumes suspendues à un train, accrochées sous un wagon. Personne ne passe des jours et des nuits dans le ventre d'un camion avec rien à bouffer que du papier journal, à moins que chaque kilomètre parcouru compte plus qu'un simple voyage. Personne ne rampe sous des barrières, personne ne veut être battu, ni recevoir de la pitié. Personne ne choisit les camps de réfugiés, ni les fouilles à nu qui laissent ton corps brisé, ni la prison. Mais la prison est plus sûre qu'une ville en feu, et un seul garde dans la nuit, c'est mieux que tout un camion de type qui ressemble à ton père. Personne ne peut le supporter, personne ne peut digérer ça, aucune peau n'est assez tannée pour ça. Alors, tous les... à la porte les réfugiés noirs, sales immigrants, demandeurs d'asile, qui sucent le sang de notre pays, nègres mendiants qui sentent le bizarre et le sauvage, ils ont foutu la merde dans leur propre pays et maintenant ils veulent foutre en l'air le nôtre. Tous ces mots-là, ces regards haineux, ils nous glissent dessus, parce que leurs coups sont beaucoup plus doux que de se faire arracher un membre, ou les mots sont plus tendres que 14 types entre tes jambes, et les insultes sont plus faciles à avaler que les gravats, que les morceaux d'os que ton corps d'enfant mis en pièces. Je veux rentrer à la maison, mais ma maison est la gueule d'un requin, ma maison est le canon d'un fusil, et personne ne voudrait quitter sa maison, à moins d'en être chassé jusqu'au rivage, à moins que ta propre maison te dise « cours plus vite, laisse tes vêtements derrière toi, rampe dans le désert, patauge dans les océans, noie-toi, sauve-toi, meurs de faim, mendie, oublie ta fierté, ta survie importe plus que tout. » Personne ne quitte sa maison, à moins que ta maison ne chuchote grassement à ton oreille « pars, fuis-moi ». Je ne sais pas ce que je suis devenue, mais je sais que n'importe où vaut mieux qu'ici. Voilà.
Merci de cette lecture qui, bah, qui est grave déjà et qui nous fait ressentir le poids du chemin, du parcours, de l'exil. En fait, oui, nul ne quitte sa maison, son village, sa famille, ses propres enfants parfois, sans avoir en lui un sentiment d'urgence, en fait. C'est souvent pas un choix, en fait. Ce n'est qu'un demi-choix. Voilà, et en plus, la violence qui transparaît dans ce poème, on se le prend en pleine figure. Et j'allais dire, en plus, une fois arrivé en France, une fois arrivé dans notre ville, là, les désirs...
C'est ça, ce qui doit être terrible, vraiment, aussi,
voilà.
Souvent.
Et je peux vous en parler grâce à l'Observatoire Asile à Marseille, qui est donc une structure, un réseau de citoyens, de structures, associations, beaucoup, oui, surtout associations, diverses et variées, qui se sont mises ensemble pour observer, analyser, critiquer et dénoncer tout ce qui était... en dehors, enfin voilà, qui desservait la dignité des personnes étrangères. Je m'explique. En fait, à partir de 2015-2016 à Marseille, la situation est catastrophique pour des personnes qui arrivent du bout du monde, qui ont vécu ce qu'on vient d'entendre là, qui ont pris la route, qui ont pris des risques et qui arrivaient dans notre pays, voilà, ne trouvent pas d'accueil, ne trouvent pas de lieu où se poser, ne trouvent pas d'endroit pour d'endroit, je dirais, au sens d'une politique de l'accueil qui n'est pas au rendez-vous. Et donc des citoyens et puis des membres d'associations et surtout le réseau hospitalité. Le réseau hospitalité, vous en avez peut-être déjà parlé dans une précédente émission.
Non, pas tellement, mais ouais,
ça
tu peux en parler. Oui,
voilà.
Bien sûr.
Le réseau hospitalité, c'est voilà un réseau donc d'hommes et de femmes dans des associations ou pas qui se sont rejoints pour mettre en avant l'hospitalité un peu dans l'esprit des villes sanctuaires, vous savez, au Royaume-Uni, mais surtout en Angleterre, aux États-Unis, des villes se sont décrétés sanctuaires pour les sans-papiers. Non, nous ne ferons pas la chasse aux étrangers, aux sans-papiers. Et donc, ces villes-là, elles ont, c'est les conseils municipaux, c'est les églises surtout, qui ont œuvré pour protéger, pour être un petit peu des lieux où les gens pouvaient s'abriter, pouvaient se protéger. Et donc ça, c'est le réseau sanctuaire. Et en France, des militants marseillais, Jean-Pierre Cavalier et d'autres, se sont mis ensemble pour essayer de faire vivre cette dynamique un petit peu du sanctuaire, de la protection, de la mise à l'abri des personnes qui peuvent être pourchassées, persécutées, malmenées, avec, enfin voilà, qu'elles soient demandeurs d'asile, sans papier, réfugiés, enfin peu importe. Voilà, et ce réseau hospitalité, il est né dans les années 2006-2008 à Marseille. Donc c'est un réseau qui aujourd'hui, je pense, rassemble plusieurs centaines de personnes. Et en 2016, ils ont décidé de prendre le droit et donc l'outil du référé liberté, qui est un outil quand en urgence une liberté fondamentale est violée, on a le droit d'activer ce levier qui est donc le référé liberté pour tous les gens qui étaient à la rue, toutes les familles. Les femmes isolées, les jeunes.
Donc le référé liberté, c'est un texte de loi.
Donc le référé liberté, c'est pas un texte de loi, c'est un. Il existe dans la loi. Si vous voulez, c'est une démarche judiciaire au tribunal administratif en urgence.
D'accord.
Voilà. Lorsqu'une liberté fondamentale, et notamment la liberté fondamentale d'être protégée d'un toit, d'être donc hébergée, quand cette liberté fondamentale-là, elle est violée, eh bien, vous avez le droit de faire cette démarche, c'est-à-dire saisir le tribunal pour demander que l'autorité compétente soit condamnée et que vous puissiez, vous, être à l'abri. Et quand des familles avec enfants en bas âge, des femmes enceintes, mais à la rigueur, j'allais dire, même des femmes pas enceintes, et puis même des hommes, et puis... Voilà, se sont retrouvés nombreux et nombreuses à ne pas être accueillis...
À la rue, tout simplement.
À la rue, à ne pas être accueillis dans aucun centre. Eh bien, il y a des citoyens et des citoyennes, des militants et des militantes, et aussi des assos, des structures qui ont fait cette campagne de référé liberté pour défendre les droits auxquels auraient eu... Voilà, les droits qui sont basiques, ordinaires, pour ces personnes-là. Donc ça a été un peu le démarrage de l'Observatoire Asile avec cette campagne de référé liberté. Mais ensuite, on s'est rendu compte qu'on devait aller plus loin et notamment donner la parole, recueillir le témoignage de ces hommes et de ces femmes qui, après leur traversée, arrivent en France à Marseille et sont perdus. Mmh. Et dans les grandes lignes, de 2017 à 2018... ont été recueillis plus d'une soixantaine de témoignages. Et dans les témoignages, il y a aussi des paroles de professionnels ou de bénévoles. Ce sont bien une quarantaine, 41 sont des demandeurs d'asile, 19 sont soit des bénévoles, soit des militants, soit des salariés de structures qui, au quotidien, œuvrent avec les demandeurs d'asile, voilà, qu'ils soient dans des collectifs ou dans des assos structurés. Et en fait, dans ce témoignage, cette parole, en fait, on a ouvert un espace de parole qui a été méthodologiquement recueilli. On a été aidé, bien sûr, par des universitaires, parce que l'Observatoire Asile à Marseille, à partir de cette matière-là, a décidé d'en faire un livre, un recueil, un livre qui problématise le non-accueil comme une politique... ordinaire à Marseille. Voilà. Le non-accueil, la non-hospitalité. On se gausse d'avoir des lois, d'avoir des dispositifs, n'est-ce pas?
Oui, on veut nous faire croire et il n'y a rien du tout.
Et en fait, au contraire, même. C'est l'errance, c'est le délaissement des personnes qui sont perdues.
C'est la prison, c'est la chasse. Chasse
au micro. C'est la traque.
La traque, carrément.
La traque, pas plus tard qu'à la Halle Puget ces derniers jours. Mais quand je vous dis ces derniers jours, aujourd'hui on est le 2 avril. La semaine, moi je pense que ça devait être.
Oui, ça je me rappelle, j'en avais parlé aussi, je crois, dans l'émission, c'était il n'y a pas très longtemps, on l'a dit.
C'est tout simplement les éboueurs et les services municipaux de la mairie qui arrivent à la Halle Puget où certaines personnes n'ont que là pour dormir, mettre un matelas et se poser dans leur dénuement total, dans leur...
On a appelé le service nettoyage de la mairie, voilà comment on considère les migrants, pour nettoyer la place, les chasser, c'est ça, et leur enlever le peu de choses qui leur permettaient de survivre, en fait.
Exactement. Voilà, donc dans les grandes lignes, hein, ce recueil donc de témoignages ensuite a été problématisé, et j'aimerais bien au-delà de ce que je viens de vous en dire, qui est un petit peu somme toute sommaire, donner la parole surtout à certains demandeurs d'asile ou certaines demandeuses d'asile. D'accord. Qui se sont exprimées. Je vais lire le témoignage de Joy, jeune femme en exil, dont vous retrouverez donc la parole, le témoignage égrené dans notre livre. J'ai oublié de dire, bien sûr, le plus essentiel, c'est que le livre s'appelle « Asile en exil ». Parce que l'asile est en exil en terre marseillaise, vous allez le comprendre.
Et c'est un livre que vous pouvez télécharger, c'est ça, hein, puisque l'ai trouvé aussi. Donc tout le monde peut se le télécharger, et ça peut être intéressant de le diffuser, de le faire connaître et de l'utiliser.
Exactement. Voilà. Bien sûr qu'il est à la portée de tous, ce n'est pas un livre technique. Je vais vous lire tout à l'heure des témoignages et vous allez le comprendre. C'est une parole très sobre, c'est des mots que chacun peut comprendre. Il se lit comme un récit. Et vous le trouvez, il est téléchargeable gratuitement sur observatoireasilemarseille.org. Donc notre observatoire s'est doté d'un site avec plusieurs rubriques, et vous avez une rubrique qui est dédiée au livre Asile en exil. Il est téléchargeable, il fait quelques 300 pages, mais n'ayez crainte, il y a des cartes, des schémas, les témoignages qui reviennent. Donc voilà, pour donner vraiment de la substance à ce que l'on dit. Parce que vous pouvez vous dire, non, mais c'est la CIMADE qui parle, non, mais c'est Amnesty qui parle, en fait. Leur regard est biaisé. Eh bien, OK, lisez ce livre. La parole est donnée aux personnes qui, les premières, vivent, traversent ces galères. Mais ces énormes galères, quoi. Ces abandons, ce dénuement.
Et à qui on ne donne pas la parole, hein. Donc là, c'est vraiment...
Voilà, t'as raison de dire le plus de ce livre-là, c'est en plus d'avoir une parole de premier direct, quoi. On n'a rien retouché. Quand il y avait des fautes de français, ou de syntaxe, vous allez les retrouver. Parce qu'il n'y a pas à changer, en fait. La parole, elle est brute. Et bien sûr, si le télécharger en PDF, ça fait 300 pages, c'est un petit peu hard, eh bien, moi, je vous invite à le commander, et vous pouvez le retirer. On a une liste de librairies partenaires à Marseille, mais aussi dans le reste de la France. Par exemple, la grande librairie de Citre à Lyon nous en a commandé quelques exemplaires dès la semaine prochaine, parce qu'on est en plein retirage. Ils nous sont livrés demain. Et donc, dès la semaine prochaine, dans toutes les librairies qui sont partenaires et dont vous avez la liste, évidemment, sur le site internet. Mais il y a, par exemple, la librairie Transit que j'imagine tout le monde connaît. Voilà, la librairie Transit, qui est en centre-ville, dès la semaine prochaine, nous remettrons quelques exemplaires que vous pourrez vous procurer, acheter. Il y a deux tarifs, un tarif solidaire et un tarif de base. Je ne sais plus, je crois que c'est entre 15, 18 et 20 euros, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et en tous les cas, même si vous n'êtes pas... vous ne vous sentez pas concerné par ces questions-là, ou que vous les comprenez justement mal de loin, que vous avez l'impression que les médias ne vous en disent qu'une partie, je vous invite à lire ce livre, parce que c'est la parole de base de ces hommes et de ces femmes qui ont fait leur parcours d'exil, sont arrivés à Marseille et là se sont heurtés à des murs. Peut-être que c'est le moment pour lire la parole de Joy, donc une jeune femme. « Je suis arrivée début janvier, toute seule. Je suis arrivée, j'ai dormi à la station Saint-Charles. J'ai demandé à la plateforme asile. Pas de maison. J'ai appelé le 115. Ils répondent pas. Tu dors à la rue. Le 115 m'a donné une nuit, là, à Jeanne Panier. Entre parenthèses, Jeanne Panier, c'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Je reprends. Une nuit. Le 115 m'a donné une nuit à Jeanne Panier. Une nuit. Une nuit. Une nuit, c'est tout. Je suis enceinte, je peux pas rester dans le 115. J'appelle, en plus, ils répondent pas. J'ai dormi 2 semaines à la gare, mon ventre, 7 mois. Il fait froid aussi. La nuit, ils ferment la gare. À l'escalateur, c'est là-bas, ils dorment tous. Le matin, tu tournes. La nuit, tu viens dormir. Le matin, tu marches. À terre, c'est glacé. Il n'y a pas de couverture. Le froid est rentré dans mon corps. J'étais malade. Il y a une autre femme avec son enfant qui dormait aussi. Moi, j'étais seule. Les garçons africains, ils dorment ensemble, comme ça. Ils mettent des couvertures à terre et ils dorment. pour une femme, tu dors pas. C'est pas possible. Tu as peur. Tu n'as pas d'eau pour te laver. Et pour les toilettes à la gare, il y a besoin d'argent. Après, une femme m'a aidée, m'a amenée à l'hôpital de la Joliette. Ils m'ont donné un rendez-vous à la conception. J'ai vu le docteur en février. Avant, je suis arrivée, je connais personne. Je peux pas aller chez le docteur, comme ça. Voilà la parole de Joy qui dit bien la solitude, qui dit bien l'incompréhension de... Et finalement, le peu de main tendue, le peu de solidarité. Et en même temps, oui, il y a cette femme qu'elle va rencontrer, qui va lui faire tisser des liens avec d'autres personnes. Je peux vous lire un deuxième témoignage justement sur ces liens, sur l'importance les demandeurs d'asile de chercher des gens qui soient des relais, qui soient des facilitateurs pour qu'ils puissent se sentir un petit peu mieux. Il s'appelle Aliou, il a 19 ans. Le plus dur, c'est pour rencontrer quelqu'un qui va te montrer les démarches pour t'intégrer, pour arranger tes problèmes de papier. Qui ? Tu connais personne ? Comment tu vas te présenter à quelqu'un ? C'est se renseigner pour savoir comment ça fonctionne. Parce que ça sert à rien, au début, de chercher des gens pour aller te promener. Chercher des gens qui savent comment ça fonctionne. Quand tu arrives dans un pays, il faut chercher des gens qui sont là depuis longtemps. Mais quand tu arrives comme moi, tu cherches aussi des gens qui sont comme toi, qui sont dans la merde. Il faut tout de suite demander, il faut sortir, il faut chercher des associations, des aides. Et c'est les gens comme moi qui m'ont donné des informations aussi. Parce qu'entre nous, si on a eu du bonheur ici, on dit aller, on dit aux gens d'aller là. Il ne faut pas avoir peur d'aller demander aux gens. Tu sais pas c'est qui va t'arranger. Mais si tu ne demandes pas, tu ne vas rien avoir. C'est assez intéressant d'entendre Aliou nous dire qu'en fait, il y a, quand on arrive, qu'on a traversé la Méditerranée, qu'on a marché, qu'on a pris des bateaux, il reste encore à aller à la rencontre d'eux. À aller rencontrer, à aller se sortir pour être en lien avec notamment des associations. Donc, il n'a pas précisé lesquelles, mais voilà, il y a le collectif El Mamba, par exemple, qui est très actif aux côtés des ce qu'on appelle les primo-arrivants, ceux qui viennent d'arriver. Il y a la CIMAD, il y a le réseau Hospitalité. Et puis, il y a tout un tas aussi d'hommes et de femmes, de familles, de gens, de réseaux.
Oui, il y a le collectif 59 avec le squat de Saint-Just.
Tout à fait. Donc, par exemple, pour les mineurs, on n'en a pas parlé. Et dans, le livre Asile en exil, il y a une petite partie consacrée aux mineurs. Mais effectivement, la plupart des témoignages que nous avons rencontrés sont des témoignages d'adultes, sont des témoignages qui ne concernent pas la thématique spécifique des mineurs. Mais oui, bien sûr, le collectif 59 à Saint-Just, qui permet à plus de 200 personnes, et pas que à des mineurs, en fait, aussi à des familles, à des mères avec enfants, d'être à l'abri, sans quoi ces familles seraient soit à la rue, soit dans des
ils sont très actifs, j'en parlerai tout à l'heure dans la deuxième partie, parce que j'ai reçu un communiqué de presse.
Bien sûr, de ce week-end. Il y avait une grosse mobilisation ce week-end. On était dans la boucle. Mais en tous les cas, ce qui est incroyable, c'est de voir qu'aujourd'hui, en 2019, la situation ne s'est pas améliorée. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des familles, il y a des vulnérables qui sont à la rue, qui dorment par terre, quoi. Alors qu'il y a des bâtiments vides, alors que l'État a les moyens. Non, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté, parce qu'on se dit que plus on fait galérer les gens, moins ils viendront chez nous, ce qui est faux. Les mecs, ils sont déjà... c'est un contresens, en fait. Le gouvernement veut se dire, et la préfecture le premier, et puis les autorités politiques, que plus les personnes étrangères vont galérer, moins elles ne voudront rester chez nous, et plus elles continueront leur route ou elles rentreront chez elles. Mais quand on a déjà frôlé la mort avec la Méditerranée...
Le poème que j'ai lu au début, c'est vraiment beaucoup ému, puisque effectivement, c'est très fort.
Donc, je pense
les moyens qui sont déployés pour les chasser, pour ne pas les accueillir, pour les repousser, finalement, ces moyens-là,
on pourrait les utiliser autrement, bien sûr.
Ouais.
Bien sûr. En tous les cas, il y a L'asile en exil ne s'arrête pas là. Le livre est sorti et donc il est réédité et dans vos librairies donc dès la semaine prochaine. Donc moi, je pense que c'est un livre aussi pour sensibiliser, pour conscientiser, pour faire connaître. Donc je nous invite vraiment tous et toutes à le prendre en main, à pouvoir l'offrir, à pouvoir le faire circuler autour de nous. Mmh. Et puis surtout, l'Observatoire Asile continue son travail. Et en ce moment, et sur notre site, vous trouverez un prolongement de notre action par des campagnes de témoignages. En quelques lignes, on peut attester et apporter un témoignage par rapport à une discrimination, par rapport à une situation qu'on a observée, qu'on a vue et qui mérite de témoigner, parce que sinon les personnes étrangères sont invisibilisées et en fait leur violation des droits.
Et vous recueillez, enfin, il y a toujours des recueils.
Voilà, il y a des campagnes, exactement. Ouais, et notamment pour les mineurs à la rue, mmh. Il y a une campagne qui est en train de se faire, qui est pilotée par Emmaüs. Et donc, l'Observatoire Asile est un petit peu un facilitateur pour que tout un chacun qui voit des choses qui lui paraissent anormales, qui lui paraissent indignes, puisse en témoigner, puisse le faire savoir. Mmh. Donc, que chacun puisse aller sur www.observatoireasile.org pour en savoir un peu plus s'il veut agir. Et puis, vous pouvez aussi aller visiter le site de la CIMADE.
La CIMADE, qui est très bien fait aussi. Bon, écoute, je te propose une petite pause musicale, là, parce qu'on arrive à la première moitié. Là, il est déjà 1h30. Et puis, je te remercie déjà beaucoup. Puis après, après la pause, je ne sais pas si t'as encore un truc pour conclure ou si c'est OK pour toi.
Non, moi, en tous les cas, j'étais très contente de pouvoir discuter avec les uns les autres. Et puis, les combats sont nombreux, que ce soit le délit de solidarité dont tu as parlé tout à l'heure, que ce soit la question des frontières.
De toute façon, tu pourras revenir aussi.
Et puis, réinvite-moi. Tout à fait.
Non, moi je t'invite quand tu veux. Il n'y a pas de problème, au contraire.
Merci, à bientôt.
Merci à toi. Alors, petite pause musicale donc avec Journey of Life de Yom.
Si tu veux, on joue aussi.
d'écouter un peu de dignité sur Radio Galère. Alors, je vais reprendre donc avec des actualités au niveau national et international. Alors, donc, je vais reparler de la loi anti-casse, puisque le gouvernement persiste dans la logique de l'escalade. Donc, j'en ai parlé régulièrement, mais voilà, je vais vous donner une dernière nouvelle. Donc, les autorités françaises persistent dans une approche frontale et une réponse disproportionnée qui risque d'entraîner une escalade de la violence. Donc, depuis décembre dernier, Amnesty International documente de nombreux cas de recours excessifs à la force par les forces de l'ordre dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes et la situation continue de se dégrader. L'approche frontale adoptée par le gouvernement se retrouve à la fois dans l'usage excessif de la force lors des manifestations et dans le durcissement du cadre légal du droit de manifester. Selon le droit international, l'usage de la force par les forces de l'ordre n'est légal que s'il est nécessaire et proportionné à la menace représentée par des individus qui commettraient des violences ou d'autres actes illégaux. La présence, samedi 23 mars, des forces militaires armées près de certains monuments parisiens et non pas au contact des manifestants, a marqué une nouvelle étape dans la logique du gouvernement de durcissement et de démonstration de force. Le droit international n'interdit certes pas de faire appel à l'armée dans des circonstances exceptionnelles et en dernier recours, mais le déploiement de forces militaires sans formation spécifique et sans équipement adéquat s'avère extrêmement dangereux dans un contexte de maintien de l'ordre public. De plus, une telle mesure envoie un message très dissuasif à tous les citoyens sur le droit de manifester. Par ailleurs, les armes utilisées par les forces de l'ordre lors des manifestations comportent de grands risques de blessures graves. Les grenades à main de désencerclement, par définition non discriminantes, doivent être interdites lors d'opérations de maintien de l'ordre, au vu des blessures graves entraînées également par l'utilisation des LBD, lanceurs de balles de défense. Depuis le début du mouvement, il est urgent d'en encadrer de manière bien plus stricte l'usage lors des manifestations, voire d'envisager la suspension de ces LBD. Les violences commises par des individus lors des manifestations ont déjà été condamnées publiquement à maintes reprises par les autorités et de nombreuses personnes ont déjà été poursuivies en justice et pour certaines condamnées. En revanche, les autorités n'ont toujours pas clairement condamné les multiples recours excessifs à la force par la police ou la gendarmerie. Donc nous avons des espaces de mobilisation qui rétrécissent dangereusement en France. Cette loi dite anti-casseur, qui a été adoptée le 12 mars dernier par le Sénat et qui, entre guillemets, devrait viser à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, comporte donc de grands risques de restrictions arbitraires du droit de manifester pacifiquement pour l'ensemble des citoyens. À Paris, comme dans plusieurs villes en région, les préfets ont interdit par arrêté les manifestations du 23 mars dans un périmètre bien défini. Par ailleurs, de nombreux manifestants semblent avoir été arbitrairement privés du droit de manifester. Ils ont été interpellés et déférés en comparution immédiate pour des motifs contraires aux normes internationales en matière de droits humains. En effet, plusieurs centaines de personnes ont déjà fait l'objet d'arrestations préventives, exclusivement basées sur le port de matériel de protection, lunettes de plongée, masques, ou de matériel considéré comme des armes par destination, bouteilles, casques, pompes à vélo. La liberté de réunion pacifique est un droit fondamental qui ne doit pas être opposé à l'ordre public. Quand les autorités françaises mettront-elles fin à cette escalade de la violence et opteront-elles pour une stratégie de maintien de l'ordre qui respecte le droit de manifester ? Voilà, alors je vais passer à une autre thématique par rapport aux droits humains, qui est très importante aussi pour Amnesty et pour les droits humains. Il s'agit de la responsabilité des entreprises. Donc je vais vous parler d'un défi qui consisterait à produire des batteries éthiques. L'exploitation des batteries de voitures électriques est liée à de nombreuses atteintes aux droits humains. Aujourd'hui, nous lançons un défi aux industriels de produire une batterie éthique dans les 5 ans à venir. Explication. Les batteries lithium
ions avec lesquels fonctionnent les voitures électriques et les matériels électroniques sont liés à des atteintes aux droits humains, notamment au travail des enfants en République démocratique du Congo, et à des risques environnementaux qui pourraient saper leur potentiel écologique. Donc vous trouverez, c'est un très très gros dossier qui est suivi par Amnesty depuis de nombreuses années en fait, sur le travail des enfants en République démocratique du Congo. Trouver des solutions efficaces à la crise climatique est un impératif absolu. Et les voitures électriques sont une part importante de cette réponse. Cependant, sans changements radicaux, les batteries qui alimentent ces véhicules verts continueront d'être ternies par des atteintes aux droits humains. Vous trouverez aussi un sujet sur le site d'Amnesty qui s'intitule justement, pour en savoir plus sur ça, « Les voitures électriques roulent encore sur les droits humains ». Alors, qu'en est-il justement donc de la violation des droits humains par rapport à l'extraction des minerais ? Eh bien, si les véhicules électriques sont la clé pour que l'industrie automobile puisse s'écarter des énergies fossiles, elles ne sont pas encore aussi éthiques que certains fabricants aimeraient nous le faire croire. Des années de pratiques industrielles non réglementées ont des répercussions néfastes sur les droits fondamentaux et l'environnement. Force est de constater que l'action des gouvernements et de l'industrie est insuffisante. Malgré les projections selon lesquelles la demande de cobalt atteindra 200 000 tonnes par an d'ici 2020, aucun pays n'exige légalement des entreprises qu'elles rendent compte publiquement de leur chaîne d'approvisionnement en cobalt. Plus de la moitié des ressources mondiales en cobalt provenant du sud de la RDC, République démocratique du Congo, la probabilité que les batteries qui font rouler les voitures électriques seraient liées au travail des enfants et à d'autres violations des droits humains est plus qu'élevée. Depuis 2016, on note des progrès. En réponse à nos recherches, plusieurs grandes entreprises, dont Apple, BMW, Denier, Renault et le fabricant de batteries Samsung, SDI, ont publié des données sur leur chaîne d'approvisionnement et les autres entreprises doivent suivre leur exemple. Par ailleurs, des violations des droits des peuples indigènes vivant près des mines de lithium en Argentine ont été recensées. Les communautés indigènes ne sont pas dûment consultées au sujet des projets miniers sur leurs terres, ni suffisamment informées quant aux impacts potentiels des opérations d'extraction sur leurs ressources en eau. Sans protection relative aux droits humains, les communautés indigènes risquent de subir des préjudices croissants alors que la demande en lithium explose. D'autres menaces se profilent. L'impact environnemental de la production des batteries est préoccupant. La plus grande partie de la fabrication de batteries lithium-ion est concentrée en Chine, en Corée du Sud et au Japon, où la production d'électricité dépend encore du charbon et d'autres sources d'énergie polluantes. Ainsi, si les véhicules électriques sont indispensables pour se libérer des énergies fossiles et diminuer les émissions de gaz à effet de serre, il faut faire davantage pour réduire l'empreinte carbone lors de la phase de fabrication. Parallèlement, la demande croissante en minerais comme le cobalt, le manganèse et le lithium accroît l'intérêt pour l'extraction minière en eau profonde qui, d'après des études, aura des conséquences graves et irréversibles sur la biodiversité. Par ailleurs, il est essentiel que les entreprises veillent à ce que les batteries soient éliminées de manière responsable. Des éléments probants indiquent déjà que des composants électroniques usagés de batteries qui contiennent divers matériaux dangereux ont été mis au rebut de manière irresponsable, contaminant les sols, l'eau et l'air. Alors, la proposition d'Amnesty International pour la production de batteries consiste en trois phases. Donc, première phase, extraction. Il faudrait cartographier les chaînes d'approvisionnement des minerais clés, promouvoir des mesures visant à identifier, prévenir et remédier aux impacts en termes de droits humains, et demander l'interdiction de l'extraction minière en eau profonde à des fins commerciales. Deuxième phase, au niveau de la fabrication. Il faut demander que les bilans carbone soient dûment dévoilés, limités et compensés, et que les droits du travail et sur le lieu de travail, notamment à la santé, à l'égalité et à la non-discrimination, soient protégés par la loi et respectés. Troisième phase, réutilisation et récupération. Il faut demander que les produits soient conçus et réglementés afin d'optimiser leur potentiel de réutilisation et de pénaliser les déchets et prévenir l'exportation et le dépôt illégal ou dangereux des batteries. Donc on voit ici que c'est un défi qui est lancé aux entreprises. À titre de première mesure, les entreprises doivent dévoiler publiquement toutes les informations relatives aux mesures prises pour prévenir, identifier et faire face aux atteintes aux droits humains et aux risques environnementaux tout au long du cycle de vie des batteries lithium-ion. Tandis qu'une crise climatique se profile, les consommateurs ont le droit d'exiger que les produits commercialisés soient un choix éthique, comme soi-disant étant un choix éthique, comme ils sont présentés comme cela. Eh bien, nous avons le droit de savoir si c'est le cas. Les entreprises qui font fi des préoccupations en matière de droits humains, alors qu'elles se tournent vers des sources d'énergie renouvelables, offrent à leurs clients un faux choix, les humains ou la planète. Cette approche biaisée n'amènera pas les changements durables dont nous avons besoin pour sauver l'humanité du désastre climatique. Nous invitons les leaders de l'industrie à bien réfléchir à l'avenir qu'ils souhaitent construire. Donc voilà, c'est un gros dossier dont vous pouvez en savoir plus sur le site d'Amnesty International. Donc on voit bien que les droits humains, l'imbrication avec l'environnement est très liée et que les entreprises aujourd'hui ont une énorme responsabilité et souvent ne se préoccupent absolument pas et les conséquences sont désastreuses donc sur l'environnement, population indigène, droits des travailleurs, droits des enfants, etc. Donc si vous voulez en savoir plus sur tous ces sujets depuis très longtemps suivi par Amnesty, vous trouverez tout plein d'articles moins récents que celui-là, mais voilà, qui s'intitule notamment ces enfants qui travaillent pour nos batteries, par exemple, ou les voitures électriques roulent encore sur les droits humains. Voilà. Alors deuxième sujet qui sont dans la même thématique en fait, sujet d'actualité par rapport à la responsabilité des entreprises. Eh bien, je vais vous parler de la responsabilité de TripAdvisor, Airbnb, par rapport aux colonies illégales israéliennes. Donc, vous pouvez agir, je vais vous expliquer ce qu'il en est, et vous pouvez agir, il y a une action sur le site d'Amnesty France que vous pouvez diffuser, signer, donc qui s'intitule « Exiger de TripAdvisor et d'Airbnb qui se retirent des colonies israéliennes ». Alors, en effet, que se passe-t-il ? Eh bien, en répertoriant ou en proposant des activités touristiques ou des logements dans les colonies israéliennes illégales, c'est ce qui se passe actuellement, eh bien, TripAdvisor et Airbnb permettent de doper l'économie des colonies et de contribuer à leur expansion. Donc Amnesty intervient pour interpeller les PDG de ces entreprises et pour exiger leur retrait. Alors, en effet, Airbnb, Booking.com, Expedia et TripAdvisor proposent toutes des offres pour faire, entre guillemets, l'expérience du camping dans le désert et des locations d'hébergement de vacances gérées par des colons dans la colonie de Kfar Adoumine ou à proximité. Quelques 180 habitants de Khan Al-Ahmar, un village bédouin, risquent alors de subir une expulsion forcée à laquelle procédera l'armée israélienne afin de faire de la place pour l'extension illégale de Kfar Adoumine et d'autres colonies du secteur. Un tel transfert forcé de personnes dans un territoire occupé constitue un crime de guerre. C'est pourquoi nous nous interpellons ces compagnies, TripAdvisor, Airbnb, etc. C'est très important puisque elles sont finalement complices de ce crime. Les autorités israéliennes offrent aux villageois le choix entre deux destinations possibles. Un site jouxtant l'ancienne décharge municipale de Jérusalem, non loin du village d'Aboudis, ou un site à proximité d'une station d'épuration, non loin de la ville de Jéricho. Donc voilà ce qui est proposé donc à ces personnes. Le camping dans le désert en Israël, proposé par Airbnb, Booking.com et Expedia, permet aux visiteurs de payer jusqu'à 235 $ par nuitée, en leur proposant de faire l'expérience de, entre guillemets, la quiétude du désert et de goûter à la, entre guillemets, la chaleureuse hospitalité israélienne. Les offres pour le camping dans le désert concernent des structures situées sur des terres que les Bédouins utilisaient par le passé pour faire de l'élevage. Avec le développement de Kfar Adoumin, de nombreux éleveurs bédouins ont donc perdu leurs moyens de subsistance et ils dépendent à présent de l'aide humanitaire. Le fait très grave de faire la promotion de colonies comme s'il s'agissait de destinations touristiques tend à normaliser et à légitimer la colonisation aux yeux du grand public. Les colonies israéliennes en territoire palestinien occupé ne sont pas des destinations touristiques. Les colonies sont illégales au regard du droit international et leur création constitue un crime de guerre. Donc voilà, pour continuer sur cette zone géographique et les crimes en question aussi. J'ai un sujet donc, d'actualité sur Gaza, la grande marche du retour un an après. Ah, par contre, c'est moins 5. Donc, du coup, je ne sais pas. Je crois que je ne vais pas avoir le temps, puisqu'il faut que je laisse la place à l'émission Article 25. Je n'avais pas vu, le temps est passé très vite. Donc, tant pis, je garde ce sujet pour la semaine prochaine. Donc je vous parlerai de la grande marche du retour un an après, explication, voilà, avec toutes les blessés par balles, les personnes tuées, etc., les Palestiniens, et la demande d'amnesty d'un embargo sur les armes. Voilà, donc je vais vous remercier. J'avais aussi des nouvelles par rapport aux femmes. Bonne nouvelle, Arabie Saoudite, 3 militantes dont j'avais souvent parlé, qui sont enfin libres. Par contre, il en reste encore d'autres en prison. Voilà, et puis il y a une publication aussi qui vient de sortir sur le site d'Amnesty qui concerne un rapport sur les violences sexuelles en Europe du Nord. Voilà, donc je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine. Puis je vous dis aussi, j'en profite pour vous dire qu'en ce qui concerne les droits des femmes, l'égalité hommes-femmes, toutes les discriminations, violences, etc., j'ai donc aussi une émission féministe que vous connaissez peut-être qui s'appelle « La révolution sera féministe » le lundi deux fois par mois à 18h, le deuxième et quatrième lundi du mois, où je relaie les actions des principales associations féministes de Marseille. Et donc j'ai aussi assez souvent des invités. Voilà, donc, eh bien, à la semaine prochaine. Voilà, je cherchais juste mon générique. Merci beaucoup de votre écoute. À la semaine prochaine.